Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue. Et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Je veux bien parier, sans lui en avoir parlé avant, que votre curé, comme moi, est marqué, en entendant cet évangile, par la personnalité du cardinal Lustiger. Le cardinal Lustiger, qui nous a ordonné, était, quand il prêchait sur cet évangile, il était très marqué. Et pour lui, c'était l'évangile du catéchumène, c'est-à-dire de celui qui doit aujourd'hui faire tomber les remparts de Jéricho pour rencontrer Jésus. Et cette scène, elle a lieu justement à Jéricho. Et il y a des raisons historiques et géographiques à ce que cette rencontre ait eu lieu là. Mais si je vous dis Jéricho, vous pensez peut-être aux murailles de Jéricho avec les 7 tours que l'on fait autour pour que le rempart tombe. Et là, il y a un rempart invisible qui est la foule qui empêche Bartimée de voir Bar-David, qui empêche le fils de Timée de voir le fils de David. Il ne le voit pas parce qu'il y a la foule et il ne le voit pas parce qu'il est aveugle. Donc il va falloir que Jésus, symboliquement, mais aussi théologiquement, fasse tomber ces murs pour pouvoir aller au-delà du mur qui est Jérusalem, puisque Jésus est en train de monter vers sa passion. Et il est accompagné de ses disciples, de ses apôtres, qui ont un peu un cœur dur et qui acceptent beaucoup de choses sur Jésus, mais n'ont pas encore accepté et n'ont pas encore compris qu'il fallait que la manière dont Jésus fasse éclater sa messianité, sa vérité de Dieu, ce soit la croix. Et donc ces apôtres, ils sont comme aveuglés par une partie de la personnalité de Jésus, et cet aveugle qui ne voit rien, voit tout. Et donc il y a un effet miroir contre miroir, entre ce que devraient voir les apôtres qu'ils ne voient pas et ce que ne voit pas cet aveugle qu'ils voient. Et donc on est déjà dans une première logique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, on avait lu ça dans l'Évangile, Jésus avait guéri un aveugle en Galilée, à Bethsaïde, et en deux temps, et il lui avait dit à la fin, surtout ne dis rien à personne. Et là, c'est le contraire. Il va suivre, il va proclamer, et plus on le, plus il dit fils de David, plus on veut le faire taire, plus il le crie. Parce qu'en fait, le temps n'est plus le même. Quand il était dans la Galilée, il prêchait, et il ne voulait pas que, qu'on l'empêche de semer l'Évangile. Mais maintenant, à la veille de monter pour les rameaux, puisque c'est ça qui se passe juste après, à Jérusalem, il faut que les gens comprennent que Jésus n'est pas juste une victime ou juste un prophète qui va être crucifié, qu'il est le Messie. Et il va choisir un aveugle pour dire la vérité. Et cet aveugle, il l'appelle le fils de Timée. Et ça m'a fait penser d'abord à Platon, le Timée de Platon, donc Bar-Timée, fils de Timée. Bar, c'est du judaïsme, le fils. Timée, c'est le monde grec. Donc Jésus est en face, enfin, cet homme est un homme frontière entre le judaïsme et le monde païen, Bar-Timée. Et il va crier, Bar-David, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus va se révéler à lui, non seulement par la vue, mais en lui permettant de découvrir que le fils de David, c'est aussi le fils de l'homme. Et que ce fils de l'homme, c'est celui qui va monter sur la croix. Et que lui, de ce disciple, cet aveugle qui va devenir disciple, va suivre Jésus à la fin. Ta foi t'a sauvé, aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin, c'est-à-dire sur le chemin de la croix. Et donc, cet homme, il va crier vers Jésus et Jésus va lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et la semaine dernière, ou il y a 15 jours, l'Évangile, c'était les fils du tonnerre, Jacques et Jean, qui demandent à Jésus de faire tomber et Jésus leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il leur a dit « Fais tomber le tonnerre sur ces Samaritains qui ne veulent pas t'accueillir. » Et c'est la même phrase « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et les fils de Timée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui appartiennent aux apôtres, qui font partie de ceux qui ne voient pas encore la réelle, ils vont demander orgueilleusement « Fais descendre le feu sur ces gens qui ne veulent pas t'accueillir. » L'orgueil. Le pouvoir divin qu'on veut utiliser pour son humanité. Et ce pauvre aveugle, lui, il va dire « Juste que je vois. » C'est l'humilité. Et donc, on a ici une catéchèse de la prière. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Est-ce que tu veux que je valide ton orgueil ? Ou est-ce que tu veux que je te guérisse ?» Comment prions-nous ? Que demandons-nous dans notre prière ? Jésus n'exauce pas Jacques et Jean, et il va exaucer Bartimée. Et puis, enfin, si, encore deux choses. Cet aveugle, Bartimée, il est un peu, à mes yeux, en ayant préparé cette rencontre avec vous, cette homélie, il est un peu, à mes yeux, l'anti-jeune homme riche. Le jeune homme riche, il lui demande à Jésus, Jésus lui dit à la fin, quand il le rencontre, « Va, vends tout et suis-moi. » Et l'homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et là, cet homme, il se défait de son vieux manteau, la seule chose qu'il possédait, et il va suivre Jésus. Il s'abandonne. Et il abandonne ses biens en mettant au-dessus de tout le fait d'être disciple. Comment suivons-nous Jésus ? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre ses biens, on n'est pas tous des franciscains. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas mettre à la même hauteur ses biens, son argent, le respect même de la loi, et Jésus, Dieu. Et il nous faut entrer dans cette conversion qui nous fait choisir le Seigneur et le voir pour aller jusqu'au bout. Et enfin, je termine par cette dernière image. L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Rabouni, c'est deux fois dans l'Évangile. Ici, et avec Marie-Madeleine au petit matin de la résurrection. Rabouni, quand elle voit Jésus ressuscité. Ça veut dire que l'Évangile nous appelle à voir en Jésus plus que Jésus. Et que la cécité de Marie-Madeleine, elle s'est transformée en vision du ressuscité sur la voie de Jésus. Et cet homme qui ne voit pas Jésus, il entend sa voix et il lui dit « Rabouni ». Parce que c'est lorsque nous entendons la voix de l'Évangile que nous pouvons vraiment suivre le Christ ressuscité. Mais ceci implique que chacun d'entre nous, c'est-à-dire membre d'une Église confessante, croyante, communiante, nous entendions ça, ce livre, comme la parole de Dieu aujourd'hui. Le Christ vivant qui nous parle. Le Christ vivant qui se donne à manger. Nous ne sommes pas dans un musée qui conserve la mémoire de Jésus. Nous sommes dans un lieu où la sainteté de Jésus se livre. Et elle se livre par la parole et elle se livre par l'Eucharistie. Eh bien, au seuil de cette Toussaint que nous allons bientôt vivre, dans cette paroisse que je découvre avec joie aujourd'hui, que le Seigneur continue et prolonge son œuvre en chacun de vous. Amen.